depuis sa dernière vidéo dans sa nouvelle banlieue Mantes-la-Jolie, où à plus de 35 ans, Hugo passe encore de jolies nuits sur ses rollers. Il s'est passé quelques temps depuis cette interview. Le temps, Hugui Raclo, c'est lui qui le fatigue par sa passion transcendante pour ce qu'il dit n'être qu'un prétexte, bien qu'il y a consacré toute sa vie et que ce prétexte prenne tous ses souvenirs. Pour nous tous, voici l'interview de Hugo Raclo, El Grande.
Alors, je refais Alpha Tango Charlie ou je le refais plus?
Non, c'est bon. Alors salut Hugo, pourrais-tu te présenter pour tout le monde s'il te plaît?
C'est la question la plus dure de l'interview qui est en direct.
Okay. Ah oui, il faut commencer par ça.
Ok. Hugo Rucli.
Voilà.
Hashtag le coach. Ils mettent des hashtags le coach maintenant. Je me présente en tant qu'entraîneur parce que c'est mon travail depuis le début de mon niveau de conscience. J'essaye d'entraîner les gens à devenir des Avengers.
Qui était prof de roller.
Oui. Prof de roller, c'est le point de départ de...
C'est marrant que tu te présentes comme ça. T'es rider aussi.
Ouais.
Rider.
Je suis rider avant d'être coach. Ouais.
Ok.
C'est la base pour travailler mon système. C'est les roues et de... l'inertie qui ont fait que j'en suis là maintenant.
Ok. Et à quel âge t'as commencé le patin et qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer?
Alors mes premiers souvenirs sur les roues, c'est à 5 ans, c'est ma première paire de patins. C'est une paire de quad artistique. Elle était vraiment stylée, verte et violette. De sa mère. Et là j'ai compris que la roulette était le plus important pour moi. Mais après, ce qui m'a amené à la pratique dite street ou agressive, comme dans les termes utilisés par la fédération, où moi je suis pas tout à fait d'accord, mais ce qui m'a amené vers ça, c'est aussi Charlie, Alpha Tango Charlie, c'est mon grand frère.
Okay.
Ouais. Qui m'a amené vers le skatepark et vers la vision de quelque chose d'un peu plus grand que juste rouler.
Ok. Et tu as des anecdotes sur tes débuts en roller?
Ah, un paquet.
Si t'en as une à nous partager.
Une seule?
Une ou deux, ouais.
Parce que j'en ai 12 ou 17.
Sur les débuts.
Sur les débuts du roller?
Ouais.
Bah mon premier gap,
ouais.
J'ai roulé sur la bouteille de gaz géante qu'on avait à l'extérieur des maisons avant que le gaz devienne le gaz de ville, c'est-à-dire un tuyau qui t'amène le gaz pour te chauffer ta maison. Avant, tu pouvais te faire remplir des bonbonnes de gaz géante.
Okay.
Et mon premier drop, ça a été ça, dropper d'une bonbonne de gaz, partir dans le... Bah, c'est une bonbonne de... Faut voir l'image, c'est-à-dire c'est un tonneau de 2 mètres de long à l'horizontale, tout en métal. Et j'ai droppé le truc, c'est-à-dire je suis parti comme dans une langue de big avant de sauter et replaquer justement avec mes quads. 6 ou 7 ans à ce moment-là.
6 ou 7 ans, ok.
J'avais déjà 2 ans d'engagement. Ça, c'est la première anecdote. Après j'en ai 17 comme j'ai dit.
Ouais, 17, bah, tu vas nous le dire.
On fera ça sur une prochaine interview.
et vous étiez nombreux à l'époque à Alès à faire du roller parce que t'as commencé à Alès?
Ah non, là je te parle pas d'Alès.
Ah, c'était Lyon, c'est ça?
C'était Lyon, une banlieue à côté de Lyon, Bénaud.
Ok.
Bénost, ça s'écrit.
T'es un mec de banlieue.
J'ai grandi dans la banlieue.
Et ouais, vous étiez nombreux à pratiquer ou c'est juste toi et ton frère?
Ben, en fait, on a toujours... Ben, autant qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'il y a autant de pratiquants aujourd'hui qu'à l'époque. Mais qu'on est dans d'autres systèmes de sociabilisation. C'est-à-dire, maintenant, on est capable d'avoir un accident de voiture en regardant son TikTok.
Ouais.
C'est un peu ça, tu vois. Et à l'époque, on était autant de pratiquants, sauf qu'on se ressemblait, on se rassemblait dans le même réseau social qu'on avait, qui était le skatepark, et qui maintenant n'a plus tout à fait le même sens. Que sans mettre de notion de bien ou de mal là-dessus, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer maintenant, est-ce que c'est moins bien ou est-ce que c'est mieux? C'est pas la question, c'est juste un système linéaire où on n'est pas dans une révolution à chaque fois. Je reviens, je reviens, je reviens sur le même type de système.
Après, c'est pas le même système, c'est Internet et après,
C'est
c'était la vie
la
réelle.
vidéo, l'image et le fait d'être apprécié en 2021 ne se ressent pas de la même façon qu'en 1990, quand nous on attaquait notre système. Je parle des likes et du comment dire à quelqu'un qu'on l'aime. De nos jours, c'est plus facile en mettant un pouce bleu sur un système que de lui dire droit dans les yeux ouais, toi, je te kiffe.
Du coup, comment t'as vu cette évolution justement entre les débuts qui se faisaient directement sur le lieu social, comme tu dis, le skatepark ou dans la rue, et maintenant qui se fait sur Internet, les connexions se font sur Internet, les
Le
connaissances se font
lien
sur
entre ces
Internet.
deux causes,
Non,
entre ces deux choses.
la différence que tu vois et qu'est-ce que. Bah, qu'est-ce que pour ceux qui n'ont jamais vécu ce truc d'avant, explique. Et qu'est-ce que t'en
Après,
penses quoi, de tout ça, quoi?
comme je disais avant, c'est je vois pas de différence réelle. La différence, elle est factuelle. C'est-à-dire, on n'utilise pas le même espace pour faire la même chose. Mais les liens et les besoins matériels et psychiques sont les mêmes. C'est-à-dire, quand je recherche des pouces sur mon compte Instagram, c'est plus ou moins la même recherche que
Que dans la rue de se faire applaudir, quoi.
je me fais applaudir ou je me fais aimer par ma famille, par des gens, par n'importe qui apprécie mon travail. Et la façon de l'exprimer change. Après, est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas à moi
Pas
de juger.
la question. Ok. Raconte-nous un peu ton parcours dans roller, les villes où t'as raidé, les scènes avec qui t'as raidé. Raconte tout ça, ouais. C'est long, hein.
Ouais, là ça prend du temps, hein.
Ça fait combien de temps déjà que tu roules?
Ben, je viens d'avoir 34 ans là. Et du coup, ça fait 30 ans, ouais.
Ouais, t'as commencé tôt, toi.
29, 28 ans que je fais du patin. Comme j'ai dit, mes premiers quads, je les ai eus à 5 ans. Le premier drop, je l'ai fait 2 ans après. Et après, la culture agressive, crazy roller, vidéo groove, tout ce qui nous a fait grandir, tous les premiers réseaux sociaux que j'ai eus, ça c'est un peu plus tard, c'est encore 10 ans après. Donc,
Ouais. Bah, raconte à partir de là justement.
à partir de vidéo groove,
Ouais, que,
à partir de
quand
Wax.
t'as fait du street, on va dire, ton parcours.
Ben à partir de là, j'ai compris qu'on pouvait devenir les personnes qu'on voulait à travers notre propre mouvement. Et du coup, j'ai créé à partir de ça un maximum de choses. Donc, effectivement, dans la rue, dans les skateparks, apprendre à descendre des pistes et des mouvements qui sont pas inhumains, qui sont complètement humain, mais d'un autre type de système. C'est pour ça la blague avec Avenger, hein. Et à partir de là, à partir de ah, j'ai compris que je peux passer à un autre système de déplacement et un autre système de pensée, et ben je vais aller jusqu'à l'entente complète de ce que je fabrique. Du coup, pour les actes, pour représenter ce que ça veut dire, c'est d'abord je commence à rouler J'apprends que je peux descendre des pentes qui d'habitude sont pas utilisables. Et ensuite, développer jusqu'à la limite suprême. La limite suprême, c'est la fracture du corps, où ton muscle lâche, où ton os lâche, en réponse à une mauvaise analyse préalable de ton mouvement. Et du coup, réfléchir à tout ce qu'il faut faire pour revenir au même niveau, voire au niveau suivant, sans redépasser cette limite-là, la limite du corps, du coup.
Et du coup, après à Lyon, t'as roulé à l'aise? Beaucoup ou pas?
Oui, bah oui, j'ai appris réellement
Et du coup, là, vous
la
étiez
pratique du patin
nombreux,
à
vous
l'aise.
faisiez
Ouais.
ça entre potes, raconte un peu si.
En roller, on devait être une trentaine à ce moment-là.
À une trentaine à l'aise? Ouais.
En skateboard 50, 70.
Ah ouais.
En BMX 30. Plus ou moins régulier, parce que le BMX était encore.
Et là, vous donniez rendez-vous au skatepark et vous alliez
Non,
rouler,
il
non?
n'y avait pas de rendez-vous à donner.
Non? Ouais.
Le rendez-vous était au skatepark. C'était pas besoin de signaler à tout le monde samedi on se retrouve au skatepark. De toute façon, samedi on se retrouve au skatepark. De temps en temps, de ce regroupement est sorti de nouvelles activités, c'est-à-dire, ah tiens, on va en ville, j'ai vu cette barrière qui ressemble à ce qu'on a trouvé dans le skatepark et on va travailler là-dessus.
Ouais.
Mais se retrouver au skatepark, pour revenir au début de l'interview, du réseau social, c'est ça, c'était notre Facebook de l'époque.
OK.
Se connecter à Facebook, c'est le même geste que aller au skatepark. Il y a il y a 20 ans, du coup, maintenant.
Et là, c'est quoi qui vous motivait? C'était la compétition entre vous? Qu'est-ce qui fait que tu as progressé toi et tu as continué? C'est quoi? C'est avec ton frère surtout que vous clashiez un peu
À ce
ou...
moment-là,
Ouais.
oui, c'est ça. À ce moment-là, c'est le sentiment de fraternité, de groupe, et d'apparaître dans le groupe qui prend le dessus. C'est-à-dire, on est encore jeune, on a besoin d'une reconnaissance particulière de l'alpha du groupe. Et du coup, il y a une recherche compétitive par rapport à l'alpha pour dire, regarde, moi je fais ça, toi est-ce que tu apprécies ce que je fais? Sans tout aucun système de langage qu'on est en train d'utiliser maintenant. Et à ce moment-là, du coup, oui, il y a une idée de compétition et la progression vient par ce système-là. Mais est-ce que c'est nécessaire? Après, encore une fois, je pense que justement, avec tout ce retour qu'on est capable de faire maintenant, se dire, oui, c'est nécessaire, mais ça l'est pas non plus. Il y a un millier de systèmes différents qui peuvent être mis en place. Et je pense que, après, moi, c'est ce que j'ai vécu, et je pense que tu peux le vivre de différentes manières selon
Ouais, selon ce
l'endroit et
qu'on veut.
selon les coachs ou les mentors que tu rencontres.
Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à voyager pour faire du roller et tout, ou c'est plus tard?
C'est après Alès, ouais.
T'es après à l'aise. Et après à l'aise, justement, t'étais où?
Bah, les premiers voyages, c'était Lyon, retourner à la ville de départ, après Annecy, après la Suisse, je crois qu'on est allé à Lausanne, ensuite on est allé à Bulle, un peu plus loin en Suisse, Winterthur, toujours en Suisse, là c'est la Suisse allemande, on va encore un peu plus loin. Ensuite, ouais, l'Allemagne, toute l'Europe proche qu'on pouvait faire en camion, parce qu'on avait du matos à transporter. Donc tout s'est fait à chaque fois en camping-car, camion, le camper-rêve, le fameux camper-rêve.
Quand c'est rêve. Et ça, c'est plus la période Montpellier alors, le voyage.
À ce moment-là, j'habitais à Montpellier, ouais. Je faisais mes études à Montpellier.
Et qu'est-ce que tu pensais de la scène roller Montpellier-Rennes à cette période-là?
Bah, la même chose que j'en pense à cette période-là maintenant. C'est des gens avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai appris beaucoup. On a tous des parcours complètement différents et pourtant on se retrouve toujours dans la même pratique. À chaque fois, c'est assez instantané. Tous les gens que j'ai croisés depuis mes 15 années de patin entre Montpellier réel et le street complet, il s'est passé toujours les mêmes connexions. C'est-à-dire, je revois Alban, le mec qui nous a filmé du début à la fin de notre pratique Montpellier-Rennes. Quand je revois Pierrot, quand je revois Seb, enfin, il y a un millier de noms. Non, pas tant que ça, du coup. Il y a une quarantaine de noms
Quarantaine
à Montpellier qui comptent et qui compteront toujours dans mon système de pensée. Et qui continue à influer pour moi sur la pratique. La session qu'on a fait aujourd'hui, elle était totalement imprégnée du système Montpellier. Tu l'as bien vu.
C'est clair.
Ces brebis, je te le dis, à la sortie d'un freumatique, j'y crée toutes mes potions, la qu'elle va des prisons. Si con, j'y crée ta mère avant qu'elle dise non. J'éclaire la nuit ce soir, je suis dans illusion noire. Je me barre pour un coup dans un troquet soir. J'aime terreur des grands soirs, l'affronter combien se barre. Les bars sont mes amis à 3 grammes d'icar.
Cette science que tu dirais non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu. Mais elle étudierait les hétérotopes.
La bière fait ses effets, étendue sur le tronquet. Vite fait, touche la serveuse et me barre. Vite fait, kiffe les étoiles bourrées. Partie de lumière, je fais grand soir dans l'illusion d'être écouté. Instant un putain de loup, seul sous ta bourrée saoul. Ma boule, j'ai l'impression d'être chez les Sioules. Retour instinct primaire, c'est ce que disait grand-père. Retour vers le futur ou bien en arrière.
Les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question s'appellerait, elle s'appellera, elle s'appelle déjà l'hétérotopologie.
Kiffe la vie trépidante, l'impression d'être en manque. Tous mes interdits transpirent quand je danse. J'ai trouvé la voie le jour, ou bourré au petit jour. Tout seul, face à moi-même, j'éclaire l'amour. Chanson me met en transe, j'écoute comme dans une danse. C'est rance, mais je l'associe à ma sepan. Ramène-moi un buffet, tout seul je vais le manger. Et faire ressortir un instinct animal né.
Justement, qu'est-ce qui fait différence à Montpellier par rapport à d'autres scènes?
Bah, je connais pas beaucoup d'autres scènes, donc
Paris,
pour moi,
Bruxelles.
Bah, à Paris, il n'y a pas de scène. Comme, si, il y a la scène. Mais il n'y a pas réellement de scène, c'est-à-dire il y a plein de groupes qui se créent et qui prennent des places qui disparaissent et qui réapparaissent. Enfin, tout un système, mais il n'y a pas de réel groupe de personnes attachées à une région. Paris, c'est pas une région. Paris, c'est un centre névralgique d'informations en tout genre. Et le roller prend les 4 ans que j'ai fait à Paris, m'ont permis de comprendre tout ça. Souvent, je dis, en 4 ans, j'ai appris 10 ans de vie. Parce que c'est un système de vie et de fonctionnement qui est très, très précis et très, qui a un certain attrait et qui excite les gens pendant un temps. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent être excités par ça à vie, mais moi ça m'a duré un temps. Et
surtout quand tu fais du pognon à Paris, quoi.
Mais tu fais du pognon à Paris, t'es obligé. Si tu veux vivre à Paris, un loyer à Paris, c'est un salaire entier presque. Donc il faut faire deux salaires pour pouvoir payer un loyer.
Quand tu dis qu'il n'y a pas de scène, c'est que les gens ne s'approprient pas leur territoire, par exemple,
C'est que les gens ne partagent pas ne partagent pas la pratique.
Ouais.
Ils gardent des choses à l'interne de son propre groupe pour pouvoir exceller et être meilleur et être mieux reconnu. Donc,
ouais, c'est du sport, quoi.
Ouais. Et donc, c'est un peu la même chose qu'au début de notre pratique, ce que je disais tout à l'heure, mais qui là est constant et avec constamment des personnes différentes et jeunes et qui est certaines, pas j'allais dire beaucoup, mais certaines, qui se perdent et qui du coup souffrent de ça. Je pense à Pierre Saporta par exemple.
Ouais, bon, c'est. Ouais.
Dans le système où on peut être, et j'avais envie de le citer pour qu'il apparaisse aussi dans un autre lieu, mais dans le système où on est, on peut se faire piéger par le... C'est ça, ce système de cellules, de groupes qui veulent une seule place, alors que toutes les cellules pourraient s'accrocher côte à côte et faire une énorme cellule.
Il y a plus ça à Montpellier, je trouve.
Non, pas plus. mais comme je les connais depuis plus longtemps, je les excuse plus que...
C'est plus la famille, quoi.
Je pense que c'est ça. Il y a plus un côté traditionnel, donc attaché au lieu. Quand j'entends quand je dis tradition, c'est ça. Attaché à l'endroit que à Paris, ça me paraît être plus la ville et un centre qui est tellement impersonnel que il n'y a rien qui s'attache à personne. Et personne qui s'attache à rien, du coup.
Parlons de ta carrière dans le patin, parce que t'es coach de patin, t'as quand même
travaillé là-dedans. Je suis professionnel.
T'es professionnel de patin. Bah, parle-nous de ça, comment t'as commencé, par quoi t'as commencé, qu'est-ce qui t'a fait commencer à faire ça. Vas-y, exprime-toi là-dessus.
Au niveau professionnel
des cours.
Au niveau professionnel, ça a été... Ah ouais, les cours. Tu penses que c'est ça, non? Le niveau professionnel, pour moi, ça a été le moment où Mathias et John, Mathias Silane et John Mater, que j'avais saoulé en leur parlant dans l'oreille pendant plusieurs soirées pour leur dire « Donne-moi des rasoirs, je vais être pro rasoir, ça va bien se passer », qui m'ont donné des rasoirs et qui m'ont dit « Voilà, c'est bon Hugo, on te reconnaît en tant que personne participant à notre système ». C'est ça qui... C'était juste... un point de détail du milieu de la soirée où tous les deux ils m'ont regardé et ils ont fait « Ok, on t'envoie des rollers la semaine prochaine. » En vrai, ça a mis un mois et demi, on connaît les osos. Pour faire un colis, il leur faut 3 semaines. Pour... Ah non, qui a mis le scotch dans ma poche, n'importe quoi, bon bref. À partir de là, je me suis senti pro. Avant ça, j'étais éducateur. Professeur, coach, on peut mettre tous les termes qu'on veut dessus. Mais ça, j'étais pas encore convaincu que ce que je faisais avait une valeur. Et je me suis fait adouber dans un sens, validé par ces mecs-là qui m'ont dit « Ok, tu peux patiner pour une marque parce que tu représentes le patin. » En général, c'est pas la marque, on s'en fout de... Là, mes potes, ils étaient chez Razor.
Donc, pour toi, c'est important d'avoir une reconnaissance dans le milieu, quoi.
Ouais, avant de pouvoir considérer que j'étais professionnel. C'est-à-dire, j'avais besoin d'une validation de certains professeurs autour de moi, qui, en fait, avec le trajet après, je me suis rendu compte que c'était pas des professeurs du tout, que c'était des gens qui avaient autant de tares que moi et autant de non-connaissance sur plein de choses et... mais c'était quelque chose qui me paraissait nécessaire.
Mais parle-nous, moi j'ai envie que tu nous parles de coach, de roller, comment t'as commencé à faire ça, par quoi t'as commencé
l'entraînement.
Ouais, Et parle-nous de tes expériences à Paris, parle-nous de tes expériences à Lunel, parle-nous de tes trucs, ouais, tout ça.
Ben, les premières initiations qu'on a fait, ça s'appelle toujours initiation d'ailleurs.
C'est ça.
C'était avec le Rose Tour.
Donc, ça s'appelait Rose Tour.
La tournée qu'on a fait tous les deux. Mmh. Et là, j'ai compris que je savais le faire. Après que je manquais de technique, de système, donc j'ai passé des diplômes, j'ai essayé de rencontrer les gens qui...
Le BE, t'as passé le BE.
Le brevet d'État. Mmh. Et j'ai essayé d'aller chercher des gens qui pourraient m'améliorer dans ma discipline. J'ai pas croisé grand monde d'intéressants là-bas. Ils m'ont demandé de répondre à un système de questions, j'ai répondu... Et ça m'a permis d'avoir ce diplôme-là et d'ensuite, après, faire mon travail d'enseignement, c'est-à-dire apprendre en même temps que je fournis des exercices à mes élèves, j'apprends de ça, je fais un travail dans les deux sens. Mmh. Et oui, c'est parti de cette tournée où on a fait quelques initiations et puis petit à petit, trouver un système... Et c'est à Paris, du coup, derrière que j'ai beaucoup appris. Je travaillais à l'EGP 18, là, l'espace de glisse.
À plein temps, prof de roller, quoi.
Non, c'était pas à plein temps, c'était vacataire. Okay. Le terme juridique et économique, c'est vacataire, ce qui veut dire c'est des CDD renouvelables à vie de 1 an.
Ok.
Mmh. Donc tu es vacataire de ta place. Et ça, qui est pas trop mal payé, mais... Effectivement, comme j'ai déjà dit, un mois de salaire normal, c'est un mois de loyer à Paris. Du coup, il faut faire 2 mois de salaire normal pour pouvoir payer son loyer et sa bouffe.
Mmh. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'enseignement, en fait ? C'est quoi qui te botte ?
L'enseignement, c'est ce que je... Encore une fois, ce que j'ai dit avant, c'est le fait que j'apprends... Je me sens autant élève que l'élève que j'ai en face de moi. Et j'apprends autant de ce que je peux donner comme enseignement et de la réponse de mes élèves par rapport à ma façon de l'expliquer.
Okay.
Donc l'enseignement est un enseignement. L'éducation est la base. Mais on n'était pas d'accord hier. Mais ça, c'est une private joke entre Thomas et moi.
C'est ça. Peux-tu nous parler des events que tu as partagés, les events de roller, donc je parle des events de roller, et ta façon de voir la professionnalisation du patin, qu'est-ce que t'en penses ?
Voilà. Devenir professionnel en patin.
Non, mais la professionnalisation, genre, que les gens qu'on a vu grandir et qui sont maintenant, qui essayent de vivre de ça.
Nicolas Bellini ?
Non.
Ouais.
Non, mais par exemple, tu parlais de Mathias, eux ils ont fait un truc à Strasbourg.
Bah, Mathias il est plus là non plus. Ah, et John il est plus là non plus.
Mais ils travaillaient dedans.
Oui, donc... non, mais ils travaillent encore pour Razor.
Mm-hmm.
Bah, mais voilà. Ils sont plus dans la pratique.
Ah, ils sont plus dans la pratique pour toi. Non, mais justement, qu'est-ce que t'en penses ça,
de ça ? Là, on parlait du business d'avant, on parlait de la nostalgie. Là, c'est les questions du présent, non ? C'est ça ?
Bah ouais, qu'est-ce que t'en penses toi de la professionnalisation du patin ? Qu'est-ce que ça fait ? Mmh. Ça te fait sauter
des jeux bon ou... Des Jeux Olympiques
et... Ouais, tout ça là, tout ce qui nous prépare en fait.
Ben moi j'arrive pas à me projeter. Ça me paraît totalement inadéquat au système. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein.
Mmh.
C'est que ces événements de participer aux Jeux Olympiques, être le champion olympique, pour rien. La représentation olympique, c'est 50 000 euros. Quand je gagne une médaille d'or aux Jeux Olympiques, je gagne 50 000 euros.
Mmh.
Ça veut dire que j'ai 4 ans d'entraînement entre chaque Jeux Olympiques pour gagner 50 000 euros.
C'est ça.
Par rapport au système de vie, c'est pas possible.
Disons que ça quadrille le sport.
Voilà. Ça est... Et ça met un système en place que c'est, qui participe à aucun moment à la recherche du bien-être personnel.
C'est ça.
elle participe juste à la classification personnelle entre chaque être. Bon. Et ça, on peut le faire dans n'importe quel type de système. Mmh. Si j'invente un nouveau système, d'autres vont apparaître les meilleurs que d'autres. Mmh. Et c'est exactement ça qu'on vend dans les Jeux Olympiques et dans les systèmes fédéraux. Mmh. Parce que pour participer aux Jeux Olympiques, il faut participer à la Fédération française. Et donc tout un système de notation, associatif et bancaire et tout ce qui va avec. Mmh. Et donc, pour répondre à la question, qu'est-ce que j'en pense des rollers aux Jeux Olympiques, et ben pour moi, c'est pas grave. Pour moi, ce qui est cool, c'est qu'il y ait des êtres de lumière qui apparaissent grâce à cette pratique, de toute façon. C'est-à-dire, si tu prends un Neumann, un Brian Aragon, un Brian Chima, un Dustin Latimer, un Bruno Loveux, un... Comment il s'appelle le Canadien
Mathieu Ledoux, non ?
Ouais, il y a Mathieu Ledoux dans un sens aussi. Enfin, tu vois, il y a tellement de... Mm-hmm. Moi, je pensais à Werberski, tu vois.
Je sais pas qui c'est.
Bref, un génie. Tu connais pas Werberski ?
Non.
Je lui montre directement après l'interview parce que c'est inadmissible.
Ouais.
Bref.
Et sinon, une question qui est... qui est un peu différente, pardon. C'est quoi pour toi les événements qu'on fait culture dans le roller? C'est-à-dire, justement, tout ce qui est anti-Jeux Olympiques, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui a réuni les riders et qui a fait qu'il y ait des liens fraternels qui durent 20 ans après? Des événements que tu as, toi, et que tu peux nous citer?
Bah, j'en ai plusieurs, encore une fois.
Vas-y.
Je mettrais l'ESA en premier.
ESA, ouais.
Evolution Street Attack.
Ouais.
Qui s'est transformé en... C'était pas Oz avant Oz, c'était quoi le... Avec David Castan, là.
C'était...
Evol. C'était Evolution, hein.
Evolution, ouais.
Une marque de construction de skatepark en...
C'est ça. Et une marque
en métal, ouais.
pour les
fringues et les designs étaient assez frappés, ouais.
Mm-hmm. Pour l'époque, quoi.
Ça, c'était un des premiers events, les
ouais.
A.
Ouais.
Après, moi, je suis allé à Annecy où j'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui aimaient la rue et le bol. Enfin, mais Annecy, ils ont la chance d'avoir les deux de bonne qualité.
Ça, c'était comment les noms des events?
Celui-là, c'était Annecy. Oh, ils vont m'en vouloir.
Ah, c'est clair. Enfin, si tu connais pas les noms des contests.
Là. Mais à chaque fois, c'est trois lettres pour représenter tout un état d'esprit. C'est trop compliqué.
Bref, ça reviendra tout à l'heure.
T'en
as d'autres ? Ouais.
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme contests qui m'ont frappé ?
Contest en boîte de nuit.
Non, j'ai pas fait
celui-là. Tu l'as pas fait celui-là.
Ça m'a frappé de ouf. Et je regarde encore les vidéos des potes qui sont dans une boîte de nuit en train de faire des trous spin top soyal. Thomas Lioré, ouais. Merci. C'est ça. Mais c'est ça, tu vois.
Roll to Zion. J'ai raté celui-là.
Ouais, ça aussi. Non, ça je l'ai pas raté, j'ai fait exprès. Je voulais pas monter, pas tout de suite. J'attends que le skatepark soit fini.
Ouais.
Là, c'est encore... Je trouve que ça fait encore trop manouche.
Ça va. Je crois que c'était l'état d'esprit. En dehors du roller, qu'est-ce que tu aimes, toi, faire dans la vie et tout ça? Qu'est-ce qui t'anime?
C'est ouf, ça.
Vas-y, réponds.
En dehors du roller, mais j'ai tout le reste comme un peu tout le monde, mais effectivement pas grand chose. Tout tourne un peu autour de ça,
ouais. C'est ouf.
Après, je crois pas faire trop chier les gens, tu vois. Je fais juste mon travail dans mon petit coin.
Mm-hmm.
J'ai pas besoin de plus que faire du patin tous les jours, là.
Et quelles ont été les plus belles rencontres que t'as fait grâce au patin?
Bah, c'est ça. 40 par ville.
J'ai une anecdote, une rencontre qui t'a marqué, je sais pas.
Par rapport au roller.
Un truc que tu penses ne pas pouvoir avoir vécu sans avoir fait du roller.
Toutes les choses que j'ai vécues ne peuvent pas exister si le roller n'existe pas. C'est ça qui est ouf, hein. C'est que tous les souvenirs que je garde et que j'ai envie de garder restent collés à ça. Après le reste, ouais, après j'ai des trucs familiaux, j'ai des trucs classiques, tu vois, qui ont rien à voir avec ce système là. Ouais.
Tu veux pas nous donner d'anecdotes, hein?
Non, pas là-dessus.
C'est trop privé.
Garde ça pour la prochaine interview.
Et qu'est-ce que tu penses des autres sports de glisse, qu'on appelle les sports de glisse, et est-ce que tu t'en fous, ou ça t'attire, ou tu parles avec les gens qui sont dedans, ou...
Sport de glisse. Vraiment, okay, le terme, tu savais très bien que j'allais rebondir là-dessus. Trottinette. Ouais, mais... Glisse. Sport de glisse, ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. C'est comme je disais tout à l'heure, moi j'ai un brevet d'éducateur sportif, roller agressif. Skating. Il est marqué agressif. Roller skating, agressif. Ça n'a pas de sens. C'est pas agressif ce que je fais, tu as bien vu mon patinage d'aujourd'hui.
Bref, est-ce que ça t'intéresse, les autres...
Bien sûr, ouais, je regarde tout. Le ski, la neige, je trouve ça incroyable. De se jeter sur des barres en fer au-dessus de la neige congelée. Je me dis, yallah. C'est moi, s'il fait pas la bonne température et que le vent est pas dans le bon sens, je saute pas sur une barrière. Les mecs qui font ça dans la tempête, sous la neige. Avec des skis de 1m80 entre des rails.
Bah, ils sont doués.
Ouais, c'est débile.
Ils sont doués.
Mais et voilà, et toutes les disciplines. Et là, en ce moment, on fait du tennis avec les potes. Je vois exactement la même chose dans mes gestes de tennis que ce que je fais pour monter sur un rail. Si je fais un revers Roger Federer, c'est un half cab Trumacchio, mon gars. Tu comprends?
Ouais, au niveau des gestes.
C'est plus dur à expliquer ça, mais je pense que si un mec sait faire half cab Trumac et le revers de Federer, et ben il peut réussir sans problème. Enfin bref. Et il comprendra. Il reste encore beaucoup de questions. Elle est trop longue cette interview.
On a bientôt fini là. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les gars du Sud? Un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais transmettre, toi, prof de roller, petit pharaon.
J'ai déjà répondu trois fois à cette question.
Non, un mot de la fin.
Je dirais Truspin Top Porn Star, par rapport au hashtag et tout. Pourquoi on donne des noms aux choses et qu'est-ce que ça représente pour les gens. Tout est un système constamment en route, constamment sur... Non, justement, pas circulaire, linéaire. Ah, ça y est, je me suis perdu.
Bon, c'est bon, on va arrêter sur ça. Merci Hugo.
Ciao.
Merci à tous d'avoir suivi Hugo Raclot pour ce troisième interview sur le réseau social The Change Book et la radio Lutte. Je vous donne rendez-vous pour une autre interview dans un mois. Allez, à bientôt, ciao!